Voilà, alors en tout cas, bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de réflexion, de recentrement, ce temps de prière aussi qu'on aura tout à l'heure. Je vous propose qu'on se mette tout de suite sous le regard de l'Esprit-Saint qui vient éclairer nos intelligences, ouvrir nos cœurs, nos volontés, accueillir ce que le Seigneur veut nous donner ce soir à travers tous les événements qu'on va vivre. Voilà, alors on va redémarrer, c'est reparti. Enfin, on ne s'est jamais arrêté puisque l'été était aussi un temps de grâce et de lumière. Mais on redémarre dans l'année scolaire et puis dans le travail, dans ce qu'on appelle le devoir d'État quotidien après les vacances. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses cet été, mais aussi on a entendu pas mal de débats, de discussions autour de l'Église, de documents qui sont sortis et de réflexions. Et je crois que ce dont j'aimerais vous parler ce soir un petit peu, c'est d'essayer de retrouver des bases et des éléments d'abord par rapport à un regard sur l'Église et puis par rapport au combat spirituel dans lequel on peut être engagé aujourd'hui. Il y a un combat spirituel qui est intérieur, on en a déjà parlé plusieurs fois, comment mener ce combat chaque jour dans l'intériorité, mais il y a aussi ce combat spirituel extérieur par rapport au monde et comment garder cette lumière, non pas dans un réflexe identitaire ou refermé comme ça, ce qui serait ou protectionniste. Je crois que là on passe à côté de la vraie lumière que le Christ est venu apporter au monde, mais en même temps d'être conscient des difficultés, des combats dans lesquels on se trouve. Alors, le débat qui se déroule aussi peut-être, c'est autour de ce regard de l'Église. Le cardinal Journet disait qu'au début du christianisme, le grand combat s'est tourné autour de la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'Église a mis 4 siècles à peu près à définir un petit peu qui était ce Jésus. Pourtant, il était là, il était venu. On avait eu l'enfant de la crèche, on avait eu le prédicateur de Samarie, de Judée et de Galilée, on avait eu le crucifié, le ressuscité. Et puis, des gens versaient tout de suite leur sang pour lui, à partir de Saint-Étienne, le premier martyr, les apôtres, les persécutions sous Néron. Enfin, les gens disent, nous, on croit en Jésus-Christ, on est prêt à mourir. Et pourtant, ça n'a pas été si simple que ça. Il y a eu des premières hérésies qui sont venues, mais est-ce que Jésus est vraiment homme? Et ce ne serait pas un Dieu qui aurait joué à l'homme et qui aurait pris l'apparence d'un homme? Alors l'Église a dit non, mais Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Oui, mais alors, ne serait-il peut-être pas un homme simplement que Dieu aurait adopté, aurait pris, aurait... C'est un vrai Dieu. Alors c'est un vrai homme, un vrai Dieu. D'accord, très bien, mais pour Jésus c'était facile, il n'avait qu'une volonté, la volonté divine. Non, c'est pas comme ça. Jésus avait 2 volontés, une volonté divine et une volonté humaine, puisqu'il était homme, il avait pris notre nature humaine. Il n'y avait qu'une seule personne en Jésus-Christ, un seul jeu, le jeu divin, le jeu de la personne du Fils du Père. Mais en même temps, il avait assumé toute notre humanité à l'exception du péché, d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas nécessaires à la rédemption. Et puis ensuite, c'était l'Esprit-Saint. Alors, quel est cet Esprit-Saint dont on parle tant dans les Écritures? Est-ce que c'est une personne ou pas? Et donc, il a fallu des siècles à l'Église et des conciles et des querelles. Parfois même, les évêques venaient avec leurs escortes armées pour avoir des arguments plus frappants que les seules paroles, au cas où ils n'étaient pas entendus par les autres, pour essayer de les convaincre de leurs idées. Il y a eu un concile à la fin du 4e siècle, je crois, qui s'appelle le Brigandage d'Éphèse, d'ailleurs, où ça castagnait sec, et puis on s'est rendu compte que les arguments frappants n'étaient pas peut-être les plus pertinents et les plus efficaces pour la vérité, et donc on en a fait un après pour rétablir l'ordre de la vérité. Donc 4 siècles à peu près, et c'était pas fini puisque ça ressurgit par la suite, pour essayer de trouver quel était ce Jésus pour lequel des gens avaient donné leur vie, pour lequel des gens avaient couru les routes du monde afin d'annoncer la bonne nouvelle et qui avait transformé tant de cœurs. Quand Saint-Pierre annonce Jésus après la Pentecôte, il y a 3000 conversions. Un sermon, 3000 conversions. Et voilà que les cœurs se renversent et disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Et Saint-Pierre dit « Recevez le baptême, recevez la grâce du Seigneur ». Alors, ce combat qui est autour du Christ pourrait se résumer autour de 3 regards différents qui se portaient sur Jésus. Le premier regard, un regard très extérieur, le fils de Joseph et de Marie de Nazareth. Certains ont même dit « Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» Ce petit bled perdu de Galilée, vraiment, on connaît ses parents, on connaît ce qui se passe là-bas. Rien du tout. Et puis un deuxième regard plus perspicace, qui était le regard plus prophétique sur Jésus. On voit Jésus, on se dit, mais tiens, ce type, il y a quand même quelque chose de plus. C'est un peu bizarre. Il parle avec une autorité que personne n'a. Il fait des miracles extraordinaires. Il guérit des aveugles, il ressuscite des morts. Il pardonne en dehors de la loi. Il y a une pécheresse qui est là, on l'amène, et voilà que le Christ pardonne à cette femme et la relève. C'est quand même extraordinaire.